Lux Radio, c'est le moment de retrouver votre rubrique Mon corps, ma vie. Alors on s'intéresse aujourd'hui hein, pour ce premier numéro de l'année hein, à un sujet délicat, on va dire, pour les parents qui sont confrontés à cette situation, la malformation fœtale. On en parle avec Hichem Ben Abestarji, un gynécologue obstétricien à Casablanca. Bonjour, bienvenue et bonne année.
Merci, bonne année, beaucoup de bonnes chances pour cette nouvelle année.
Bonne année, docteur.
Avec moins de catastrophes, je dirais, et beaucoup de positivité, je dirais.
Meilleur
je dirais les malformations fœtales, pas la malformation.
Oui, il y en a beaucoup. Quand il y en a beaucoup, mais quand j'ai dit là, c'est
au sens générique.
Général.
Les malformations fœtales, donc, apparemment, et malgré les avancées en matière de recherche scientifique en la matière, Hichem Ben Abestarji, leur cause exacte reste inconnue dans près de la moitié des cas. Est-ce que vous confirmez?
Mais tout à fait. La moitié des cas, je ne sais pas, mais il y en a beaucoup. Parce que c'est pas évident de faire un bébé.
Maintenant, il y en a certains dont on connaît la cause, hein, et les causes sont soit intrinsèques, donc génétiques, soit extrinsèques, et donc environnementales, soit on a affaire à des causes multifactorielles. On va rentrer dans le détail, Hichem Ben Abestarji, des causes pour qu'on puisse matcher ces dernières avec les maladies résultantes. Commençons par les causes intrinsèques, si vous permettez. Ici, on a affaire soit aux gènes, on parle par exemple de l'empreinte parentale, les gènes d'un ou des deux parents. Exemple d'anomalie dans ce cadre?
Par exemple, la trisomie 21, c'est une, ou bien il y a des centaines de syndromes, syndrome de Prader-Willi.
Ce sont les malformations d'origine chromosomique.
Oui, mais qui sont génétiques. Donc il y a aussi d'autres anomalies, la maladie de l'X fragile, il y a plein d'anomalies génétiques. Mais pourquoi cela? Parce que tout simplement, faire un bébé, c'est pas évident, parce que là, la yalette. Et deuxièmement, CDRB a bien fait les choses, c'est-à-dire il y a une multiplication des cellules. Et donc, chaque cellule va se diviser en deux et a besoin donc d'une réplication de l'ADN. Et c'est là que ça peut entraîner des malformations, des erreurs, des mutations qui peuvent entraîner des malformations. Alors, dans 70% des cas, il y a une élimination dès le début, c'est-à-dire on fait une fausse couche. On est malheureux parce que la grossesse est arrêtée, on saigne, on fait une fausse couche, c'est un œuf clair. Mais en fait, le bon Dieu l'élimine dès le début. Mais malheureusement, il y a quelques cas, je dirais, qui vont passer avec des malformations qui vont être soit dépistables avec la grossesse qui évolue, soit découvertes par la suite au cours de à la naissance ou même au cours de la petite enfance. Et je viens de lire un article tout à l'heure, on avait 7% des bébés, des enfants de moins de 5 ans qui avaient des malformations congénitales. Elles sont pas toutes graves. Quand je dis 7%, c'est aussi, on peut compter ce qu'on appelle, par exemple, l'hexadactylie. Il y a des familles de génétiques, un sixième doigt, ou un doigt surnuméraire, ou un petit morceau qui dépasse, qui est accolé au cinquième doigt. Donc, c'est aussi considéré comme une malformation. Mais pour en revenir aux causes, comme vous dites, les causes génétiques, les anomalies génétiques et chromosomiques, le chromosome, c'est juste le support des gènes. Eh ben, donc, tout un chromosome peut manquer ou être en excès ou manquer. Comme ça peut être des anomalies génétiques qui touchent un gène particulier. Comment on va les suspecter? Parce qu'il va y avoir des antécédents familiaux. On va retrouver dans les cousins, dans la famille proche, des antécédents de la même chose. Il peut y avoir donc aussi des anomalies génétiques chez les parents, qu'on appelle des anomalies génétiques équilibrées. D'accord? C'est-à-dire que ils ont un capital génétique qui est équilibré, c'est-à-dire qui est normal, mais avec des mutations cellulaires, ce qu'on appelle des translocations, qui font que leur gamète, soit spermatozoïde, soit ovule, sont anormales. Et donc, quand elle va s'associer avec d'autres, elles donneront des anomalies génétiques.
Apparemment, à l'échelle mondiale, les malformations d'origine chromosomique concernent 1% des naissances. Maintenant, est-ce que c'est reproductible, j'ai envie de vous dire, dans la fratrie, derrière? Pas sûr.
Oui, c'est possible.
Si ça arrive à la première naissance, je veux dire, est-ce qu'il y a de fortes chances à ce que ça arrive?
Ça dépend. Est-ce que c'est un gène autosomique, ce qu'on appelle autosomique récessif, autosomique dominant? Est-ce que c'est les deux allèles du gène qui sont concernés? Ça concerne beaucoup de choses. Tout ce qu'on peut faire par rapport à ça, c'est les dépister pour au moins pouvoir prévenir si jamais il y a quelque chose, éventuellement faire une interruption thérapeutique de grossesse si c'est quelque chose de non viable, une trisomie 13, une trisomie 18.
Et est-ce que dans le cas d'intervention volontaire de grossesse, d'IVG, est-ce qu'il y a un délai ou
l'IVG,
pas?
L'IVG, alors non, ça c'est un grand
voilà,
problème.
C'est ça, parce que comme on sait que
l'IVG
c'est
totalement
interdit
dans notre pays. Voilà, donc, après l'ITG, c'est-à-dire l'interruption thérapeutique de grossesse, ça fait plusieurs années que tous les gynécologues et même, je dirais, même des parlementaires demandent à notre Parlement de légiférer. Sa Majesté avait déjà proposé ça, de légiférer dans certains cas de malformations non viables ou vraiment. Et il n'y a pas eu de loi, donc tous les gynécologues appelleront.
Donc là, aujourd'hui au Maroc, ça reste interdit.
Ça reste interdit. Oui,
d'accord.
L'IVG, même l'ITG, en fait, elle obéit à
un processus
interruption thérapeutique de grossesse, voilà, ou médicale de grossesse. Quand vous avez une anomalie, d'accord, il faut en fait la signaler au délégué provincial, au délégué du ministère. Vous savez, c'est comme, je dirais, le mariage, jouais-je. L'essentiel, c'est de le dire, d'annoncer la chose, et que, de telle manière à ce que le délégué provincial accorde cela. D'accord. Lui, il va aller se demander bien sûr, à un contrôle, à d'autres professeurs d'obstétrique. Généralement, c'est le CHU qui va donner, oui, effectivement, on va refaire une échographie, on va s'assurer qu'il y a une malformation, qu'elle est non viable, c'est-à-dire que, il y a un danger,
pour la santé de la mère,
une anencéphalie, un bébé qui n'a pas de tête. On le voit dès le début de la grossesse, d'accord? Donc, même s'il va naître, il peut évoluer jusqu'à 40 semaines et accoucher. Sauf qu'elle va accoucher d'un bébé sans tête, malheureusement.
Alors concrètement, comment ça se passe? Terminer le processus. Donc là, aujourd'hui...
On n'a pas de solution. Il faut l'envoyer. Moi, ce que je fais, je l'envoie au CHU. Je l'envoie au délégué provincial, qui l'envoie au CHU, qui refont une écho. Et des fois, quand ils sont sympas ou quand ils sont magnanimes, je dirais, ils vont, oui, accorder l'ITG. D'accord. Dans la plupart des cas, ça se passe pas. Ou tout simplement, il va y avoir la mort fœtale, c'est-à-dire que le bébé va arrêter sa croissance. Et à ce moment-là, on est autorisé à la déclencher. Mais je vous dis, dans pas mal de cas, on est hayrin, on ne trouve pas de solution.
Donc, on a pas mal parlé, Jemena Bastaji. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien. On parle des malformations fœtales. On a pas mal parlé des causes intrinsèques, donc génétiques, chromosomiques, etc. Venons-en aux causes externes cette fois-ci. Elles sont les plus répandues ou pas du tout?
Elles sont les plus répandues.
Ici, on parle essentiellement de ce que la mère peut subir comme aléas de santé pendant sa grossesse et de causes infectieuses essentiellement.
Oui. Alors, il y a les causes infectieuses, il y a les expositions aux radiations et il y a l'alimentation.
Oui.
Alors, c'est les causes les plus fréquentes. Et deuxièmement, c'est les causes qu'on peut prévenir. Par exemple, quelque chose de très important, arrêter de fumer. C'est quelque chose d'important. Heureusement que pas beaucoup de femmes marocaines ne fument, je dirais, même si c'est en augmentation et c'est dommage. Mais en Europe, le tabac est une cause importante de fausses couches, de retard de croissance et de mort fœtale et de malformations fœtales. D'accord? L'alcoolisme aussi. La prise de vitamine B9. On sait que l'acide folique est très important pour la fermeture du tube neural. Donc ça diminue. Alors l'absence de fermeture du tube neural, ça donne ce qu'on appelle le spina bifida, c'est-à-dire une anomalie de la moelle épinière, ou bien, alors carrément, ce qu'on appelle des anencéphalies ou des exencéphalies, c'est-à-dire des malformations de la tête, d'accord? C'est fréquent, ça a une fréquence de 1 sur 4000, donc c'est fréquent et pas fréquent, mais quand ça arrive, je veux dire, c'est quelque chose qui est dommageable, parce qu'on vit difficilement avec un spina bifida. Alors, il y a différents stades. Maintenant, on sait que les anomalies de fermeture du tube neural sont, on peut les prévenir, on peut les diminuer de 50% juste avec une supplémentation en acide folique. Et donc, il faut conseiller à toute femme qui arrête sa pilule, qui enlève un stérilet, qui désire tomber enceinte, de prendre l'acide folique. Il faut le faire en périconceptionnel, avant même... Je dirais avant même la fermeture du tube neural qui se fait entre la 17e et le 25e jour du cycle, de la grossesse. Voilà, donc arrêter le tabac, prendre de la vitamine B9, équilibrer un diabète. Le diabète est une cause majeure de malformation fœtale, d'accord? Et donc, quand on tombe enceinte ou bien quand on est diabétique, eh ben, soit on prend une contraception pour ne pas tomber enceinte, soit si on désire tomber enceinte, eh ben, on équilibre son diabète, éventuellement passer à l'insuline, changer enlever les biguanides et la metformine et équilibrer son diabète avant de tomber enceinte.
Vous le disiez au début de votre réponse, je vous ai coupé peut-être.
Non, c'est bon.
Vous le disiez au début de votre réponse, les malformations dues à des agents physiques, Benabastage, les plus connues sont celles liées aux radiations ionisantes, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, à votre manière par exemple, les enfants nés après les Hiroshima, Nagasaki, oui, Tchernobyl, etc. Il y a ça d'un côté. De l'autre, quand on parle de malformation chimio-induite, on parle aussi très précisément, quand on dit chimio-induite, on parle très précisément de médicaments pouvant entraîner l'apparition de malformations fœtales. Est-ce que tous les médicaments à risque sont répertoriés? Est-ce que la liste est régulièrement réactualisée?
Alors, vous me donnez l'occasion de débattre sur quelque chose. Alors, premier point, je veux revenir sur les radiations ionisantes.
Oui.
C'est un moyen, il faut aussi rassurer les gens. Il faut que les doses de radiation soient très, très importantes.
Très, très élevées, oui.
Mais il ne faut pas que la dame, les appareils de radiologie maintenant sont très peu irradiants. Et il ne faut pas avoir peur dès qu'on fait une radio ou une radio dentaire ou même une radio du pelvis ou un scanner parce que donc on a été irradié et qu'on découvre par la suite qu'on est enceinte. Le risque est minime. Je ne dis pas que le risque n'existe pas, mais je dis que le risque d'atteinte est minime. Première des choses. Donc, il faut rassurer par rapport à ça. Et surtout, en début de grossesse, ça obéit à la loi du tout ou rien. C'est-à-dire, soit il y a une malformation grave et qui va s'arrêter, soit, à la rigueur, il n'y a aucune conséquence et la grossesse évolue. D'accord? Deuxièmement, après les médicaments. On oui. sait, avec beaucoup de scandales qui ont fait, la thalidomide qui n'est plus utilisée, la dépakine, le valproate, que ça donne des malformations dans 10-20% des cas. Maintenant, une épileptique, on lui donne du valproate parce qu'on n'arrivait pas à équilibrer son épilepsie. Mm. D'accord? Donc, il y avait un bénéfice-risque où on disait oui, il y a un risque de qu'elle fasse, si elle tombe enceinte, qu'elle fasse une malformation, mais aussi, on n'arrive pas à l'équilibrer avec d'autres médicaments. Mais le valproate de sodium, c'est connu depuis 50 ans. Mais avant, on n'avait pas peut-être, je dirais peut-être que maintenant, on a développé d'autres alternatives médicamenteuses à l'épilepsie, c'est pas mon domaine, mais peut-être il y a la motrigine, il y a d'autres médicaments qu'on peut donner pour équilibrer une épileptique. Mmh. Et donc on évite de plus en plus le valproate. Le valproate de sodium, il donnait dans 10 à 20% des malformations majeures. Mmh. Il y a les AVK, il y a pour les cardiaques, les femmes cardiaques, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les anticoagulants. Il y a beaucoup de médicaments qui sont listés et qui peuvent, ils vont pas toujours donner. La problématique maintenant par rapport à tous ces scandales, c'est que maintenant, on est dans l'ère du zéro risque, il faut absolument un responsable. Dès qu'il y a quelque chose, même s'il y a 1% de risque, il faut enlever ce médicament, enlever ce truc.
Ah oui.
Oui, ce médicament, il a aussi des bénéfices attendus. Donc, on peut pas vivre avec zéro risque. On peut pas.
C'est vrai qu'on peut pas vivre avec zéro risque, alors, mais si un médicament est responsable de malformation fœtale,
c'est pas le médicament est responsable de malformation fœtale. Le médicament peut être responsable dans 1% des cas de malformation fœtale. Maintenant, il sauve aussi des vies, il a aussi d'autres choses. Vous comprenez? Donc il faut peser le bénéfice-risque par rapport à ça.
Je
dirais par rapport à vos auditeurs et aux auditrices, il y a un site que les professionnels de santé, les gynécos consultent beaucoup par rapport à tout ça, les risques, c'est le CRAT, lecrat.fr, je leur fais la publicité, c'est un site institutionnel français, le centre de recherche des agents tératogènes français qui liste 90% des médicaments et des interactions médicamenteuses et grossesse et allaitement. Est-ce que vous pouvez ou pas prendre tel ou tel médicament?
Oui.
L'irradiation...
Et dans la liste, oui, pardon, docteur, oui. On manque de temps. Et dans la liste, vous avez dit le valproate de sodium, oui. Voilà. Il y a aussi l'isotrétinoïne qui est utilisée dans le traitement de l'acné, oui, oui. Et la thalidomide qui est un hypnotique sédatif. Oui. Puisqu'on parle de médicaments, le vaccin. Ça me fait penser vaccin, du coup au vaccin anti-Covid.
Vous
en lien avec les formations, est-ce que c'est avéré qu'il y a un lien de cause à effet?
Alors non, moi je dirais, on étudie le vaccin. Les vaccins, on voit qu'est-ce que contient le vaccin. Et tous les vaccins à base de virus vivant atténués, c'est-à-dire le vaccin de la polio orale, le vaccin de la rubéole, le vaccin de la fièvre jaune, sont formellement contre-indiqués parce que vous donnez un virus à un bébé en formation. Par contre, tous les autres vaccins à base de fractions antigéniques, le vaccin de la grippe, le vaccin de l'hépatite virale B, le vaccin contre le Covid, c'est des fractions antigéniques. Même le vaccin ARN, cet ARN code pour quoi? Code pour une protéine, il code pas pour le virus.
Et donc, après, tous ces vaccins
anti-Covid, ils sont pas tous, ils n'ont pas tous produits de la même manière.
Mais oui,
on parlait de virus inactivés, il y en a aussi.
Ils sont à base de virus inactivés, tués. Voilà. Tués, pas vivants, atténués. Mm. Et c'est pour ça que je vous dis, d'après le CRAT, et je vous dis ça, c'était dès début 2021, eh ben, le CRAT mettait tous les vaccins sont permis.
Après, honnêtement, on peut dire que c'est des recommandations scientifiques, sanitaires, mais on va dire que c'est la responsabilité des parents, hein. C'est leur premier rôle. Être parent, c'est être responsable. Donc après,
Le problème
sont responsables de leur choix et de leur décision.
On diverge sur la vaccination.
Mais si, parce que tout à l'heure, vous disiez 1%, 2%, il faut des responsables. Mais on peut partir du principe qu'en tant que mère ou père, on est responsable.
On va parler de la vaccination anti-Covid. Je vous dis, théoriquement, ça va d'après la logique de la presse, de la fabrication de la chose, le vaccin anti-Covid n'a pas de problématique de risque, je dirais, de tératogène, de malformation. Maintenant, au début, le ministère n'autorisait même pas les vaccins parce qu'il avait peur de ce risque. Sauf que quand on a vu que le Covid tuait plus de femmes enceintes, je crois qu'il y a eu plus de 50 femmes enceintes qui sont mortes en 2021 du Covid, quand on a vu cela par rapport au risque du vaccin où vous avez 1 pour 100 000 effets secondaires graves, d'accord, eh ben il y a pas photo. Vous avez 50 femmes qui meurent qui sont mortes d'un côté, et vous avez 1 pour 100 000 cas graves. Eh ben voilà. On pèse le bénéfice-risque.
Merci beaucoup, Hicham Ben Abbastah.
Je voudrais juste terminer sur quelque chose, le suivi de grossesse. Et
oui, justement, ce que j'allais vous dire, on va forcément revenir à ce sujet, parce qu'on n'a pas suffisamment développé le volet diagnostic. Vous en avez parlé tout à l'heure,
mais
on
n'a
pas, voilà, on n'a pas parlé suffisamment de ça. Et les prises en charge possibles. Merci, en tout cas.